Radio Okapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Beni au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont, sans plus tarder, voici les titres. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'exprime ce mardi à la 77e Assemblée générale de l'ONU. L'agression de la RDC par le Rwanda via la M23 et le retrait ordonné et coordonné de la MONUSCO figurent parmi les points essentiels de son allocution, estime le chercheur Frédéric Amani de l'Université de Lubumbashi. En territoire de Beni, au Nord Kivu, un surpeuplement des élèves est constaté dans les écoles mécanisées de la chefferie de Watalinga, précisément celle située à Kamango, son chef-lieu. L'organisation Action pour la défense des droits de l'homme, ADDH, qui alerte sur cette situation, plaide pour la mise en place des mécanismes de mécanisation d'autres écoles. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, est notre invité. Il rassure la population sur la pérennité du processus de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Et merci encore une fois d'être à notre écoute. Jean-Claude Siala sur la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Le président Félix Antoine Tshisekedi s'exprime ce mardi à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Depuis hier lundi, les présidents et chefs de gouvernement ont commencé à défiler devant la tribune de l'ONU pour passer des messages en rapport avec la situation de leurs pays respectifs. Pour ce qui est de la RDC, les chercheurs associés en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi estiment que l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23 et le retrait ordonné et coordonné de la MONUSCO figure parmi les points essentiels de l'allocution de Félix Tshisekedi. Frédéric Amani a été joint par Alain Irung, l'envoyé spécial des Radio Okapi à New York.
Le discours du président Félix peut se comprendre à des niveaux. Faire un plaidoyer à la communauté internationale par rapport au conflit à l'Est et inviter la communauté internationale à soutenir les efforts congolais pour rétablir la paix et la sécurité à l'Est du pays et dans la sous-région des Grands Lacs. Mais aussi une interpellation vis-à-vis de la communauté internationale par rapport à ce qu'on peut qualifier d'une politique de deux poids, deux mesures et inviter la communauté internationale à condamner les pays qui soutiennent les mouvements de rébellion, notamment le Rwanda, au regard du rapport des experts des Nations Unies.
Le président Félix ne manquera pas de dire un mot sur les récentes manifestations anti-MONUSCO. Il en profitera une fois de plus pour les condamner devant ses pairs à la tribune des Nations Unies. Mais il va aussi profiter de l'occasion pour vanter ou montrer les progrès qu'a accompli la RDC dans la consolidation de la paix et de la sécurité à l'est du pays et afficher cette volonté du gouvernement de s'appuyer sur les acquis de la MONUSCO pour aller de l'avant et pour que les départs progressifs soient ordonnés et coordonnés, de sorte que, après le départ de la MONUSCO, qu'il n'y ait pas un chaos qui va s'installer.
Au sud Kivu, Vital Kamerhe a passé sa nuit hier lundi à Uvira et devra poursuivre sa caravane ce matin vers les territoires de Fizi. Accueilli hier en pompe à Kamanyola dans les territoires de Walungu, le président de l'UNC a effectué plusieurs escales dans la plaine de Ruzizi, notamment à Katogota, Luvungi, Sangé, Kiliba, avant d'atteindre Uvira dans la nuit où il a tenu un meeting populaire. Fiston Goma revient sur l'essentiel de ce qu'il a dit au cours de son meeting.
Devant une foule en liesse au stade de l'unité d'Uvira, Vital Kamerhe a remercié la population de l'avoir soutenu lors de son arrestation et sa détention à la prison de Makala à Kinshasa. Il a ensuite abordé la situation socio-économique et sécuritaire critique que traverse actuellement la RDC dans sa partie orientale. Une situation qui demande, selon lui, la contribution de tous, principalement des enfants d'Uvira, réputés patriotiques depuis toujours, pour relever ces défis. Quelques habitants s'expriment sur son discours.
Il constate toujours que le pays est à genoux jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le pays ne s'élève pas. Il faudrait voir comment conjuguer ensemble les intelligences pour essayer un peu de lever le pays. Parce que le pays est dans une situation de coma. C'est ça ce qu'on a retenu pour son discours.
Avec les potentialités que regorge le Congo, et si nous nous soudons ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et le Congo peut devenir la Chine de demain. C'est ça l'essentiel de ce qu'il a dit.
Le président de l'UNC est accompagné dans ce périple par une dizaine de cadres de son parti, parmi lesquels de ministres, des députés nationaux et provinciaux, le vice-gouverneur Marc Malago, le membre de son cabinet, son épouse Amida Chatour Mwangaza Kamerhe était aussi de la partie. D'Uvira, Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
En bref, le lieutenant-général Philemon Yaf Irung, commandant de la 3e zone de défense de FARDC et des opérations contre des groupes armés dans l'est de la RDC, a été arrêté hier mardi soir et mis en détention préventive à la prison centrale de Makala. Jusque-là, le motif de son arrestation n'est pas révélé. Selon certaines sources qui évoquent une trahison présumée, l'auditorat militaire de FARDC gère son dossier avec possibilité de faire fixer un éventuel procès. Le général Philemon Yaf était à la tête du commandement de cinq provinces, dont le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et la Tchopo. Ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Vidi et Timanga, ancien conseiller spécial stratégique du président Félix Tshisekedi. Il est invité à répondre à certaines questions du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe demain mercredi. En même temps, le même parquet requiert la PLC d'auditionner et d'enquêter l'ex-conseiller spécial sur les faits de corruption présumés en rapport avec une commission de 20% qu'il aurait négociée auprès d'une société de prétendus investisseurs dans les mines en usant de son influence. Fait rapporté depuis le 15 septembre par le journal suisse Le Temps, rappelant que ces faits ont éclaboussé l'ex-conseiller et la présidente de la République en même temps et sont susceptibles de la prévention des corruptions selon le parquet. Et au lendemain, Vidi et Timanga a déposé sa démission auprès du chef de l'État après que la vidéo, le filmant en train de négocier avec les investisseurs était devenue virale sur la toile. En bref, en territoire de Beni, au Nord Kivu, un surpeuplement des élèves est constaté dans les écoles mécanisées de la chefferie de Watalinga, précisément celle située à Kamango, son chef-lieu. L'organisation Action pour la défense des droits de l'homme, ADDH, qui alerte sur cette situation, plaide auprès du gouvernement de mettre en place les mécanismes de mécanisation d'autres écoles. C'est afin de désengorger celles qui subissent déjà le surpeuplement, a dit David Mouazé, coordonnateur de l'ADDH. Dans la province de la Lomami, des dizaines d'élèves de la localité Tsingmalanga, dans la chefferie de Kachisungu, en territoire de Lwilu, ne vont plus à l'école depuis la semaine dernière. Les parents ont fui la présence des policiers déployés pour rétablir l'ordre dans un vieux conflit foncier qui oppose deux familles. Suite à cela, le chef de localité avait été trouvé mort dans son champ la semaine dernière. Le ministre provincial de l'Intérieur de Lomami demande aux habitants de regagner le village afin de vaquer librement à leur champ. À leurs travaux champêtres pendant ce début de la saison culturelle. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis la semaine dernière que des dizaines de familles de la localité de Tshimangala ont fui leur village pour se réfugier en brousse. Ce déplacement ne permet pas aux élèves de poursuivre les enseignements. Les autorités scolaires déplorent la suspension des cours dans cette localité. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur lie cette situation au décès du chef de localité dans les conditions non encore élucidées. Le défunt avait été trouvé mort dans son champ. Pendant ses obsèques, un jeune de la partie adverse a été soupçonné d'être auteur de ce drame. Il a par la suite été malmené jusqu'à être brûlé vif pour venger la mort du chef de localité. La police a été déployée sur place pour rétablir l'ordre. Les deux familles en conflit ainsi que les habitants de cette localité de Tshimangala ont jugé bon de prendre le large abandonnant les deux corps. Le ministre provincial de l'Intérieur demande aux habitants de regagner le village pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école et aux habitants de poursuivre les travaux champêtres pendant cette période de la saison culturelle. Un calme apparent règne actuellement dans la localité, mais l'affaire reste pendante. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En bref, en Ituri, les tronçons commandent à Niania sur la route nationale numéro 4 et Bunia Mongwalu ainsi que Ngote Aru sur la route nationale 27 sont dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs véhicules sont bloqués sur ces axes routiers en cette période de pluie. Les transporteurs et les chauffeurs ainsi que les passagers disent être exposés aux attaques des groupes armés qui sont en errance dans la région. Ils demandent au gouvernement de réhabiliter d'urgence ces axes routiers pour préserver des vies humaines. Au Maniema, il s'observe une hausse vertigineuse des prix de carburant depuis ce matin dans la ville de Kindu. Un litre qui se vendait à 4500 francs congolais se négocie actuellement à au moins 10 000 francs congolais. Déjà, le transport en commun est devenu compliqué. Les motards haussent les tons. Le président des pétroliers parle de la rupture des stocks dans toute la ville. La population locale demande l'implication rapide des autorités. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
Les rumeurs de cette hausse ont commencé les après-midi d'hier lundi. Arrivé le soir, le litre s'est négocié entre 6 000 et 7 000 francs. Et ce matin, presque toutes les stations ont fermé. L'unique station Sonaïdro qui sert les carburants à 5 500 francs, mais il n'est pas facile d'en trouver. Les motards haussent les tons.
On n'arrive pas à comprendre vraiment. Hier, on a acheté un litre à 4 800 francs à la pompe. Mais aujourd'hui, un litre de carburant coûte 10 500. Ça nous étonne beaucoup. Maintenant, une course. Nous allons transporter une personne pour combien? Nous voulons que les carburants soit dans un prix rabaissé.
Ils demandent 1 000 à 1 500 francs par course, mais les passagers n'acceptent pas.
Nous sommes en train de gaspiller notre argent. Nous voulons demander les courses pour 1 000 francs, soit 1 500 francs. Mais nos clients ne veulent pas qu'ils nous donnent cet argent-là. Ils veulent toujours 500 francs congolais.
Situation économique est difficile pour ces derniers qui préconisent garder leur engin à la maison.
Les clients ne veulent pas monter au prix de 1 000 francs. Nous voulons juste garder le moto à la maison.
Après leur rencontre avec le gouverneur intérimaire, les pétroliers espère à l'implication de l'autorité. Babou Nazareth.
Nous n'avons pas de stock. Moi, c'est depuis hier que toutes mes stations ont fermé. Chez les autres collègues aussi n'ont pas de carburant. Nous avons été invités hier et il y a des pistes et solutions que nous avons proposées aux autorités.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les étudiants de l'université de Kisangani exigent que leur établissement soit retenu sur la liste des sites stratégiques devant bénéficier prioritairement de l'électricité fournie par la SNEL pendant cette période de stage intensif. Ils l'ont déclaré hier lundi devant la presse au sorti de l'entrevue avec le coordonnateur adjoint de l'équipe du service minimum du gouvernorat de province à qui ils ont du reste remis leur mémorandum. Si leur cri de détresse n'est pas entendu, ils menacent d'entreprendre certaines actions. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Pour les étudiants de l'université de Kisangani, conduits par leur coordonnateur Eric Yaloufa, le manque d'électricité au campus central leur a causé beaucoup de préjudices, notamment sur les plans académiques et social. Du point de vue académique, ils affirment être en difficulté pour réaliser les travaux scientifiques. Sur le plan social, l'insécurité a élu domicile dans le milieu universitaire. En outre, ils ne peuvent utiliser les réchauds et autres plaques électriques pour la cuisson des aliments. Au regard de toutes ces difficultés, ils exigent d'aligner le campus central sur la liste des sites stratégiques qui bénéficient de l'électricité. Cette dernière est devenue une denrée rarissime à Kisangani. La centrale de la Tchopo ne fournit actuellement que 4 MW selon un communiqué de la SNEL daté du 14 septembre dernier, en cause des pannes fréquentes de ces machines. Actuellement, depuis plus d'une semaine, un seul groupe est en marche, les deux autres étant à l'arrêt. En temps normal, les trois groupes produisent environ 19 mégawatts alors que les besoins de la ville en électricité sont estimés à 45 mégawatts. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Depuis hier lundi au centre médical Diamant de Lubumbashi de la deuxième campagne gratuite de chirurgie cardiaque pédiatrique. Cette nouvelle phase concerne les enfants dont les pronostics de vie sont engagés. Ces enfants malades viennent notamment de Kinshasa, Beni, Bukavu, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa et Lubumbashi. Cette campagne de deux semaines est menée par la Fondation Centre Médical Diamant en collaboration avec le personnel médical de l'ONG Novik Cardiac Alliance, dont la plupart des membres viennent des États-Unis et de certains pays d'Europe. Cette dernière équipe a aussi la charge de former le personnel médical congolais pour assurer la relève. Jean Gandou nous en dit plus depuis Lubumbashi.
Comme lors de la première phase, c'est près d'une vingtaine d'enfants qui sont attendus. Leur âge varie de 5 semaines à 17 ans. La première à subir cette intervention chirurgicale s'appelle Andrea. Elle est âgée de 2 ans. Elle et sa mère sont parties de Bukavu, passant par Uvira jusque dans les Tanganyika avant d'atteindre Poitou dans le Haut-Katanga, où elles ont pris une moto pour parcourir près de 500 km jusqu'à Lubumbashi. Elle a été opérée avec succès. Sa maman garde espoir que cette intervention permettra à sa fillette de retrouver son sourire et de vivre comme les autres enfants. Pour la Fondation Centre Médical Diamant, en RDC, plus de 39 000 enfants naissent avec une malformation cardiaque et seuls 4 000 atteignent l'âge de 18 ans, d'où la nécessité urgente d'intervenir pour sauver les vies. Déjà, les parents des enfants qui ont été opérés lors de la première campagne et qui sont totalement guéris encouragent les autres parents ayant les enfants malades à les amener pour leur donner une nouvelle chance de vie. Et pour faire face à la forte demande, le responsable du centre médical Diamant sollicite une fois de plus le soutien de l'État congolais pour la poursuite de cette campagne qui est coûteuse. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre ougandais de la Santé a annoncé ce mardi la présence d'une épidémie des virus Ebola en Ouganda qui a provoqué la mort d'un homme dans le centre du pays, 3 ans après le dernier décès recensé. L'Ouganda confirme une épidémie de maladie à virus Ebola dans le district de Mubende. Le cas confirmé est un homme de 24 ans qui a présenté des symptômes de la maladie à virus Ebola et a ensuite succombé, a déclaré le ministre sur son compte Twitter officiel. Et puis l'ONU s'est inquiétée ce mardi de la violence, de la répression des autorités iraniennes manifestant contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim, Nada Al-Nashif, a exprimé ce mardi son inquiétude face à la mort en détention de Mahsa Amini, détenue par la police des mœurs iranienne en appliquant des règles strictes sur le hijab. Et à la réaction violente des forces de sécurité aux manifestations qui ont suivi, souligne un communiqué du Haut Commissariat.
L'invité.
Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, est notre invité. Il rassure la population sur la pérennité du processus de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Jean-Pierre Liaou s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui expliquerait l'accélération par vous de la mise en retraite des 10 000 agents et fonctionnaires de l'État cette année, dont la première vague ce mois de septembre et la deuxième interviendra au mois prochain?
C'est d'abord le souci de rendre leur dignité à tous ces fonctionnaires qui aujourd'hui ploient sous le poids de l'âge. Les droits au repos après une longue carrière est consacré par notre Constitution. C'est pas un privilège. Après une longue carrière, on mérite, tout fonctionnaire mérite une retraite qui soit une retraite digne. Il faut, je l'ai dit plusieurs fois, arrêter avec cette absence de retraite et cesser d'être l'unique pays au monde où seule la tombe peut arracher un fonctionnaire de son office. Donc l'idée, c'est d'abord d'accorder ses repos. Ensuite, il faut rajeunir l'administration publique parce que nous allons procéder à un remplacement progressif. Dans un premier temps, un fonctionnaire sur deux qui va à la retraite afin de nous laisser la marge de mieux gérer la masse salariale.
Alors, Excellence, qu'est-ce qui garantira l'irréversibilité de ces processus de la mise à la retraite?
Je crois que c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est déterminé. Il veut absolument que nous puissions redresser l'administration publique. Or là, on ne peut pas redresser une administration publique avec un personnel totalement vieilli. Donc, je crois que nous avons d'abord cet atout, cette volonté politique qui est sur la table et la détermination de son Excellence Monsieur le Premier ministre à matérialiser cette volonté présidentielle. Et moi, je suis totalement dévoué à cette cause. Je suis, si vous voulez, accompagné dans ce combat par le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances. Nous sommes donc porteurs d'une ambition qui est réelle et d'une détermination sans faille. Pour moi, c'est la seule clé qui garantira, en tout cas, c'est le succès de cette opération et la pérennité de cette opération publique qui passe par cette mise à la retraite de plus ou moins 350 000 agents qui en sont éligibles.
Vous organisez déjà une cérémonie pour des retraités, des secrétaires généraux émérites.
Oui, dans le jour à venir, Son Excellence Monsieur le Président de la République procédera à la décoration de ceux des secrétaires généraux qui ont été envoyés à la retraite. Et ensuite, je crois, seront aussi associés à cette cérémonie un échantillon de certains centenaires, de fonctionnaires centenaires, ayant dépassé l'âge de 100 ans. Mais nous prévoyons d'autres cérémonies et d'autres moyens pour honorer ceux des fonctionnaires qui ont été retraités de manière tout à fait tardive. Et nous agissons pour que plus jamais dans notre pays une telle chose puisse se passer, c'est-à-dire que laisser un fonctionnaire atteindre un âge aussi avancé sans qu'il ne puisse avoir la possibilité
certains secrétaires généraux l'ont accepté facilement.
Oh ben c'est la loi c'est la loi, c'est pas question d'accepter ou de pas accepter. Il y en a qui attendaient depuis longtemps, il y en a je crois qui ne pensaient pas que le chose allait aller si vite, aller partir aussi rapidement. Mais bon, je crois que les faits sont là, la volonté est là, celle de fluidifier la retraite dans notre pays. Et je crois que le secrétaire général, comme d'autres fonctionnaires, n'ont pas de choix que de s'adapter.
Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cette interview.
Le goûter, c'est moi. Merci bien.
C'était notre invité, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'entretenait avec J.R. Lungembo. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.